Pour ce sujet EPRA, nous vous proposons de suivre un atelier débat organisé conjointement par l'Association des Tunisiens en France, la Fédération des associations laïques de Roubaix, l'Association Femmes Solidaires et l'Union des familles laïques de Lille sur le thème « Laïcité et droits des femmes » en présence de Madame Natacha Loa, membre de Femmes Solidaires.
Je vais d'abord rappeler la définition, l'origine du mot « laïcité hein. ». Qui est en fait laos, hein, qui est d'étymologie grecque, hein, et qui signifie égalité des citoyens. Donc là, je rejoins ce que disait monsieur Mohamed. Si on part au XVIIIe siècle, pour Rousseau, c'était un État où tous sont égaux et où chacun est souverain. Donc il y a la volonté de vivre ensemble, hein, et d'aller vers l'égalité des droits. Donc, le 9 décembre 1905, il y a eu la loi de séparation des églises et de l'État. C'est l'histoire de combat et de lutte contre l'Église catholique, principalement. Donc, l'article 2 de cette loi interdit à la République de reconnaître, salarier et subventionner tout culte. Hein, donc, je le rappelle parce que, en fait, ça, c'est en danger actuellement. Donc, il n'y a pas de religion d'État. Et donc, cette loi refuse que l'on différencie les gens en fonction de leur religion. Bon, ça aussi, c'est important, je pense, de le rappeler. Donc, depuis, il y a eu des lois, on peut dire, anti-laïques, et des attaques qui, finalement, vont de pair avec les attaques contre les droits des femmes. Donc, je vais essayer de vous montrer que tout ça, c'est lié, en fait. Donc, en France, l'État doit agir pour l'égalité des droits et l'égalité sociale. Hein. Donc, c'est pour ça que nous avons toujours des services publics importants. Il y a le devoir, donc l'État a le devoir d'intervenir pour agir contre les injustices, hein, et pour qu'aucun individu, donc homme, femme, enfant, ne soit soumis à des pressions, quelles qu'elles soient. Donc, ceci, évidemment, n'est pas du tout dans la logique libérale, hein, où l'État doit laisser faire. Donc c'est la conception, pour la logique libérale ou ultralibérale, c'est la conception d'un État extérieur à la vie publique. Chaque individu fait ce qu'il veut, mais bon, si chaque individu fait ce qu'il veut, de ce fait, ça menace la liberté des autres. D'où une menace d'emprise du religieux sur l'espace public, une menace sur la laïcité et une menace d'un point de vue économique aussi. Hein. Donc, je veux dire, la laïcité, c'est aussi au niveau économique, le privé qui va essayer, les sponsors privés qui vont intervenir à l'école, hein, qui vont essayer de faire de la publicité. Ça se trouve, hein, quand on a des journées, des salons d'étudiants, on voit des logos de banques, enfin dans les lycées, tout ça. Donc, il y a quand même une intrusion économique à ce niveau-là. Donc, dans notre société, les femmes ont réussi à gagner leur autonomie financière, hein, et le droit à disposer librement de leur corps. Et donc, aucune religion ne saurait gérer cela, en fait. Donc, nous assistons malheureusement, donc, depuis plusieurs années, hein, je dirais ça fait une bonne vingtaine d'années, hein, peut-être même avant, à une montée en puissance des intégrismes religieux. Donc, je voulais vous rappeler... que tous les intégrismes, hein, quelle que soit la religion, en fait, ils sont tous d'accord pour reléguer la femme à un rôle subalterne, mais essentiel à leurs yeux, qui est celui de reproductrice, hein, dont les tâches restent domestiques. Donc, tous postes clés seront fermés aux femmes dans ce genre de société. Bon, je rappelle donc l'Afghanistan, les talibans qui ont réduit les femmes à l'état de fantôme, hein, quand on voit encore des reportages à la télévision, beaucoup portent encore le tchadri, hein. Donc il leur interdisait de s'instruire, et bon, et dans les zones où ils ont pris le contrôle, ça se passe comme ça, de travailler ou de sortir seul. Donc là, dernièrement j'ai lu là, dans Time Magazine qu'ils ont attaqué des petites filles, hein, qui allaient à l'école, et leur maîtresse, ils les ont aspergées d'acide en fait à Kandahar, voilà. Donc c'est pour dire vraiment ce refus d'éducation des filles. En Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire et subissent des violences quotidiennes. Au Pakistan, elles sont parfois défigurées au vitriol et le mari jaloux ou lassé d'elles reste impuni. Au Yémen, où il y a la charia, il y a des fillettes qui sont mariées à 7-8 ans. Et donc là, il y a des reportages. Il y avait un reportage dans le magazine Marie-Claire où on voit une petite fille de 10 ans qui divorce en fait et qui est obligée de se cacher de sa belle-famille ou de sa famille. Donc, bon, tout ça, évidemment, ça peut paraître loin de chez nous, mais en Europe, on n'est pas du tout à l'abri de ce genre de choses. Donc, les intégrismes sont implantés en Europe, qu'ils soient catholiques, évangéliques. Bon, aux États-Unis, Sarah Palin, qui aurait pu être vice-présidente si McCain avait été élue, a quand même une position très rétrograde sur les droits des femmes. Elle condamne l'IVG, la contraception. Elle n'est pas du tout progressiste. Donc, les évangéliques sont aussi dangereux pour moi que les intégristes catholiques, orthodoxes ou musulmans. Donc, les intégristes ou intégrismes religieux sont organisés en lobby. Ils ont de gros moyens financiers. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et le Vatican finance énormément les groupes anti-IVG. Human Life américaine, donc Provi, dispose de millions de dollars. Et ils ont des experts, ils s'infiltrent en fait à l'ONU, ils sont infiltrés au niveau du Parlement européen. Bon, pour vous dire par exemple, qu'ils disent que le préservatif véhicule le sida. Donc il ne faut pas mettre de véhicule le sida. Voilà, ils font courir ce bruit. Voilà. Bon, je rappelle aussi le projet de constitution européenne de 2005 qui était désastreux pour les droits des femmes et pour la laïcité. Donc ça, je pense aussi que c'est utile de le rappeler. Donc, dans tous les pays européens, donc la droite catholique cherche à remettre en cause le droit à l'IVG. Donc, je rappelle quelques événements récents. Donc, il y a eu un référendum en Italie le 12 juin 2005. En fait, c'était une loi de 2004 qui avait été passée. Et donc, les Italiens devaient se prononcer pour ou contre l'abrogation partielle de la loi sur la fécondation assistée. Donc, le premier article, en fait, de cette loi qu'ils avaient passée, faisait de l'embryon un être humain à part entière. Bon, et ça, c'est aussi... Donc, le pape est intervenu personnellement. Il a félicité les évêques italiens pour leur engagement à défendre le caractère sacré de la vie. Donc, on voit que l'Italie, c'est à notre porte, que les autorités religieuses n'hésitent pas à s'immiscer dans les législations de l'État. Donc, le 20 janvier 2008, des milliers de manifestants à Paris des manifestants pro-vie manifestaient contre l'IVG. En février 2008, il y a l'arrêt de la Cour de cassation sur l'état civil du fœtus. Donc, ça paraît peut-être partir d'un bon sentiment, mais donc je vais vous lire dans l'article. Donc, censée réconforter les associations de parents endeuillés après un décès durant la grossesse, cette décision permet à un fœtus né sans vie d'être déclaré à l'état civil, quel que soit son niveau de développement. Bon, avant, ce n'était pas possible, avant 4 ou 5 mois. Donc ça, évidemment, ça fait plaisir au Vatican aux gens qui sont contre l'avortement. Il y a des attaques aussi contre les locaux du planning familial en région parisienne. Donc, il y a eu la décision du tribunal de Lille d'annuler un mariage pour cause de non-virginité de l'épouse. Donc là, c'est pareil, on rejoint encore toujours un peu cette même idée. Donc, en fait, début juin 2008, à l'initiative du réseau Initiative Féministe pour une autre Europe, l'IFE, dont fait partie l'association Femmes Solidaires, donc des militantes ont planché sur la laïcité. Et elle pense que l'immixtion du religieux dans les affaires publiques est toujours préjudiciable aux droits des femmes. Les fondamentalismes, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, considèrent tous que l'émancipation des femmes est la source de tous les maux, M-A-U-X. Donc il y a un brouillage des pistes également au niveau du vocabulaire, employé au niveau européen ou mondial à l'ONU. Maintenant, on ne parle plus d'égalité homme-femme, on parle d'égalité de genre. Donc il brouille les pistes. Donc face à ce retour à l'ordre moral et aux incursions de plus en plus téméraires du religieux dans les affaires politiques, le principe de laïcité apparaît comme une protection pour les femmes. La laïcité, c'est la construction d'un espace public de liberté où les croyances ne s'érigent pas en normes morales applicables à tous. Donc, en conclusion, je dirais qu'il y a un lien certain entre l'ultralibéralisme et la montée des intégrismes religieux. Le dogme de l'état minimal ouvre aux activités religieuses, aux activistes pardon, religieux des espaces inespérés dans les domaines clés du social et de l'éducation. Donc à propos de cela, il y a Alors, le rapport Machelon, excusez-moi. Remis au ministre de l'Intérieur le 19 septembre 2006, le rapport Machelon propose une véritable refonte des relations des cultes avec les pouvoirs publics. Au nom de l'égalité entre les catholiques et les fidèles des confessions en expansion récente en France, les musulmans et surtout les chrétiens évangéliques, il suggère que les communes puissent contribuer sans plafonnement à la construction de lieux de culte. Autre proposition, aligner progressivement le statut des associations culturelles sur celui des associations de type 1901. Mais je pense que c'est cultuel. Hein. Ouais, c'est écrit, mais c'est écrit culturel dans le journal, ils se sont trompés. Cultuel, pardon. Une évolution. C'est cultuel, cultuel, cultuel. Mais certaines, elles s'appellent culturelles et en fait elles sont cultuelles. Voilà, c'est ça. Ah voilà, donc c'est ça.
Et c'est une bataille d'essayer de les faire passer au statut d'association culturelle.
D'accord. Une évolution qui pourrait se traduire à terme par la création d'une forme particulière de reconnaissance d'utilité publique pour les activités religieuses. Donc, ça permettrait donc aux activistes religieux, ça ouvrirait, pardon, aux activistes religieux des espaces inespérés dans les domaines clés du social, également de l'éducation. Et donc, nous prenons une éducation non sexiste, justement, pour faire avancer et préserver les droits des femmes. Donc, on imagine que si c'est le religieux qui s'occupe de l'éducation, ça ne va pas être très bon pour les droits des femmes. Et la laïcité est aussi un rempart contre les mariages forcés et l'excision, en France donc, et la laïcité est donc essentielle pour préserver les droits des femmes. Voilà.
Cet atelier était suivi par un débat avec le public présent.
La ville de Roubaix n'a pas construit de mosquée à Roubaix. Elle a simplement permis aux musulmans, sur leur propre denier, de se construire un lieu de culte digne. Non, mais je voulais le préciser. Non, elle n'a pas subventionné. Non. Je voulais dire ça par rapport à plein d'autres villes de France, comme Grenoble, comme Montpellier. À Montpellier, la puissance publique a construit 7 mosquées sous couvert d'équipements culturels. La ville de Rennes également. Il faut savoir que c'est ça la réalité en France sur cette question. Les villes ont construit, ont mis à disposition des populations musulmanes des officiellement lieux culturels qui sont en fait des mosquées. À Roubaix, on a fait un truc, à mon avis, beaucoup plus juste. On a fait une délibération cadre, destinée à permettre à nos concitoyens de confession musulmane ou d'autres religions, puisqu'il y a les bouddhistes qui ont également participé à ça, leur permettant de pratiquer, leur octroyant une aide s'ils constituaient une association loi 1901. Et jusqu'à maintenant, il n'y a qu'une seule association, une seule religion, si vous voulez, qui a essayé de faire une association cultuelle. Les musulmans, des musulmans devaient en faire une, et puis finalement, ils ne l'ont pas fait. Mais il y a des bouddhistes qui l'ont fait. Et il faut savoir qu'au ministère de l'Intérieur, ils ont été très, très embarrassés avec ça. Parce que c'était l'une des... Au département du Nord, c'est la première fois qu'on leur demandait ça. Constituer une association cultuelle, ils n'avaient jamais entendu parler, vous voyez.
Je voudrais revenir sur l'expression « on ne croit pas croire ou ne pas croire à la laïcité ». C'est pas une question de croyance, c'est une construction politique. Je redis, c'est complètement fondé sur la raison. C'est tout le contraire de la croyance, justement. Donc, j'ai bien dit tout à l'heure que c'était pas une opinion parmi les autres, c'est un régime politique qui veut que permettre effectivement la coexistence de la liberté de conscience, que l'on soit croyant, quelle que soit la croyance, que l'on soit athée ou agnostique. Donc on ne croit pas à la laïcité, on est toujours en train de la construire. Enfin ici, en ce moment, on la déconstruit. Par ailleurs, je voudrais revenir sur l'histoire des mosquées en question. Bon, oui, je participe à la FAL, aux opérations d'éducation populaire de la FAL, et à la dernière à laquelle j'ai participé, j'ai bien capté ce que disait un universitaire, certes kabyle, sur la différence entre l'islam des mosquées et l'islam des mausolées. que je voudrais répéter, parce que ça, ça a été une révélation pour moi. Du coup, j'ai continué à travailler la question. Hein. Donc, je n'entrerai pas dans le détail. Mais il nous montrait quoi ? Il nous montrait que les Français, ben, ils sont devant une religion qu'ils ne connaissent pas. Hein, il faut le dire comme ça. Et les élus politiques, pareil, du coup. Et ils ont l'impression que quand ils favorisent la mosquée, c'est quelque chose de très bien. Mais la mosquée, et nous expliquait cet universitaire Kavil, il nous dit quoi ? Une mosquée, c'est pas une église. Et ça a été dit là maintenant. C'est pas une église, c'est un endroit qui a prétention à régir tous les aspects de la vie des musulmans sur lesquels ils veulent intervenir. C'est à la fois un lieu de culte, un lieu de réunion, ça peut être des commerces, ça peut être un lieu politique, philosophique, etc. Donc effectivement, choisir le modèle de l'association culturelle, c'est fortement bien approprié. Parce que qu'est-ce que ça veut faire une mosquée ? Et il nous l'expliquait dans le Maghreb, et notamment en Algérie, c'est que quand le fils a gagné les élections municipales, qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, il s'est tout de suite empressé de multiplier les mosquées là où il n'y en avait pas. Parce que, si vous voulez, la mosquée a prétention totalitaire. Elle veut régir tous les aspects, dans toutes les dimensions, commerciales, éducation, religieuse, discussion, entretien. C'est le lieu par excellence de rencontre des musulmans qu'ils contrôlent. C'est une espèce de zone de contrôle, d'outil de contrôle de la totalité des aspects de la vie quotidienne des gens qui veulent régir. Alors que l'islam, nous expliquait cet universitaire dont j'oubliais le nom, il doit s'appeler Hassen Irène ou Irène Hassen, je ne sais plus comment, il nous expliquait bien que avant l'arrivée de cette forme d'islam des mosquées, qui vient du Moyen-Orient, si je m'abuse, mais mon collègue à côté confirmera ou démentira ce que je raconte, si j'ai bien, enfin, je crois avoir bien capté ce qui avait été dit, eh bien, c'est avant l'arrivée de l'islam des mosquées, qui est un islam du Moyen-Orient, existait depuis les années 1300 un islam des mausolées dans l'Afrique du Nord. Et l'islam des mausolées, c'était quoi ? C'est un islam, les mausolées, c'est des saints, quoi. Y a des saints, donc on élève un mausolée. Alors, il y a quasiment autant de mausolées qu'il n'y a de communes dans cette zone. Alors, il nous expliquait, ça commençait en Espagne. Donc, cette zone va de l'Espagne jusqu'à la frontière, pas l'Égypte incluse, justement, jusqu'à la frontière égyptienne. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, les populations se sont convertis à l'islam pour empêcher l'islam des mosquées, justement. Et avait créé cet islam des mausolées. Islam des mausolées qui fait que chacun, un peu comme les protestants, est libre d'interpréter les textes. Hein, il n'a pas besoin, comme dans l'église catholique, c'est exactement l'islam des mosquées, c'est exactement l'église catholique par opposition au protestantisme. Les protestants interprètent les textes comme ils veulent, hein, etc. Ils les lisent d'abord. Les catholiques ont été interdits de lecture jusqu'à la Révolution française. Ils n'avaient pas le droit de lire la Bible. Donc, ils devaient lire le catéchisme, c'est-à-dire les textes mixés, prédigérés par le Vatican, etc. Eh bien, les protestants, eux, pouvaient interpréter. Ben, l'islam des mausolées, c'est un islam où chaque musulman de cette zone-là doit lire, doit interpréter, organiser sa lecture et sa croyance comme il l'entend. Et il expliquait en même temps que dans chaque village du Maghreb et de l'Espagne, eh bien, il y avait, notamment au Maghreb, il y avait une dissociation, un découplage entre le pouvoir politique du village et le pouvoir religieux. C'est-à-dire que le pouvoir politique fonctionnait et mettait à l'écart le pouvoir religieux. C'est-à-dire que l'imam n'avait pas à intervenir dans les affaires du village. Donc, comme il disait, c'était pas la laïcité encore, mais il y avait une démarche de découplage entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Alors, il disait, mais enfin, c'est aberrant, alors qu'on a des populations qui sont kabyles, alors qu'il y a des populations, il y a aussi des gens d'origine musulmane qui sont pas pratiquants, il y en a qui sont pas croyants, eh ben, on veut leur fourguer le schéma de l'intégrisme qui vient du Moyen-Orient. C'est-à-dire, c'est un machin qui vient, qui s'est imposé de plus en plus, si vous voulez, plaqué sur des réalités qui n'étaient pas celles-là. Et en France, on privilégie une forme d'islam par rapport à l'autre. C'est ça qui est par méconnaissance historique et des réalités. Enfin, moi, je crois bien avoir retenu, j'ai suivi avec un très grand intérêt, j'ai relu des choses après, derrière, cette conférence qui était là-bas à Lancet, sur cette chose-là, c'était une révélation. Ça veut dire que quelque part, on donne un coup de main aux intégristes, en croyant être tolérants. C'est ça qui est paradoxal, et en imposant des formes d'organisation, des formes de pensée qui ne sont pas forcément celles des populations qui sont obligées de les subir ici. C'est quand même le paradoxe total, quoi. C'est pour ça que j'aime bien reproduire cette information, parce qu'elle doit nous donner à réfléchir. On donne le coup de main aux intégristes. C'est comme si on donnait le coup de main à l'intégrisme catholique contre les protestants à cette époque-là. C'est comme si on était du côté de l'Inquisition, quoi. C'est exactement le même schéma. Et on croit faire bien et on croit faire démocratique et tolérant. Je trouve ça gravissime.
Je pense quand même que certaines femmes adultes portent le voile, enfin, contre leur volonté, hein. Même en France, parce que bon, il y a eu un incident à Marseille cet été. D'ailleurs, c'était un couple de Lille où le mari a quand même tabassé sa femme parce qu'elle avait soulevé son voile parce qu'elle avait trop chaud. Et bon, il a quand même pris 6 mois de prison, mais enfin, je pense qu'il y a ou des jeunes femmes, des jeunes filles qu'on fait venir et qui en fait restent enfermées dans des appartements et quand elles sortent, enfin moi j'en ai, il y en a une qui se promène dans mon quartier, la Lille Moulin, on lui voit même pas les yeux, quoi. Elle a carrément, enfin je la vois pas tout le temps, mais on voit même pas ses yeux. Elle a des gants et c'est un fantôme, voilà, exactement. Et enfin, pour moi, ça, c'est intolérable. Hein. Et je pense que ça ne devrait pas être permis, enfin, dans une république laïque, hein, que des femmes soient réduites à l'état de fantôme, comme ça. Bon, à l'université, justement, à Lille 3, il y en a quelques-unes aussi. Et des garçons aussi, hein, ils portent la barbe. Enfin, les garçons s'affichent aussi en djellaba. Et le problème aussi, je trouve, c'est qu'on ne dit pas... On va dire, là, il y a une histoire d'un préfet qui a été nommé. Ils ont dit un préfet musulman. Mais pourquoi préciser la religion? Pourquoi pas dire un préfet Ça, c'est agaçant aussi. On a l'impression que...
C'est le discours que tenaient les colonisateurs dans les...
Non, enfin... Non, non. Non, je pense pas. Moi, je pense pas.
C'est l'aspect positif.
Non, et puis...
discrimination positive, finalement.
Oui, puis
c'est le communautarisme.
Oui, c'est le puis ça encourage justement, ça encourage des signes distinctifs.
Attendez, excusez-moi, juste deux remarques sur l'islam des mosquées et l'islam des mausolées. Il est vrai que l'islam, comment dire, wahhabite ou l'islam des frères musulmans. C'est un islam politique, c'est-à-dire une vision d'organisation de la société avec des normes religieuses. Donc ça, c'est... Mais je ne pense pas qu'en construisant ou qu'en facilitant, ou je ne sais pas comment, la construction de mosquées pour des musulmans en France... on favorise l'islam des mosquées. Pourquoi ? Parce que l'islam en France est une religion minoritaire. Que les règles qui régissent la société sont des règles laïques, qui sont valables pour tout le monde. Il y a toujours un risque qu'il y ait un contrôle au niveau à l'intérieur des mosquées. Alors, vous savez, les renseignements généraux sont dans toutes les mosquées. Ils savent très bien ce qui se dit. Ils savent très bien ce qui se fait. Donc, dire que parce qu'il y a un risque, la construction de mosquées favorise le contrôle des communautés, et donc il faut faire barrage, moi je dis, il faut faire barrage, bah, pendant 30 ou 40 ans, les musulmans... j'allais dire lambda, les musulmans qui sont croyants, qui veulent pratiquer leur religion et qui ont prié dans des caves, dans la rue, bah, ça fait des Khaled Kalkal, des gens qui ont été très à l'écoute des thèses extrémistes et ainsi de suite. Bah oui, mais c'est ça le problème. Le problème auquel on est confronté, c'est ça. C'est est-ce que, au nom de la laïcité, on fait des barrages contre la pratique de la religion musulmane, ou est-ce que, au nom de la laïcité, on fait en sorte que la religion musulmane soit pratiquée d'une manière banale et qu'il n'y ait pas effectivement le contrôle des islamistes radicaux qui veulent en faire effectivement un problème de contrôle de communauté. Donc c'est là la difficulté à laquelle sont confrontés les élus, sont confrontés. Alors effectivement, c'est quelque chose à manier avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence, beaucoup de doigté, mais on ne peut pas faire en sorte comme s'il n'y avait pas de musulmans en France. À force d'avoir fait en sorte comme s'il n'existait pas, on finit par avoir des gens qui disent, effectivement, qui croient beaucoup plus ce que raconte un Al-Qaradawi, parce que je connais bien un peu l'histoire. Donc il y a plein de gens qui s'improvisent connaisseurs de la religion musulmane et qui font des fatwas et qui font des machins. Alors, ils sont ignorants. Premier point. Deuxième point, beaucoup de nos enfants ne connaissent pas la religion musulmane parce que l'islam n'est pas connu en France. Moi, quand j'étais à l'école dans mon pays, je savais ce que c'était le christianisme, je savais ce qu'était Marie, je connaissais Jésus. Et quand je suis arrivé ici, j'étais adulte, j'étais à l'université, ben, l'islam, on n'en parle pas. On n'en parlait pas à l'époque, du moins. Donc, l'enseignement des religions, j'allais dire d'une manière laïque, c'est une obligation qu'on doit avoir. Parce que sinon, on cristallise encore les frustrations, on cristallise... Alors, bon, j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui a été le vécu de beaucoup de musulmans, bon, peut-être dans deux ou trois générations, ça sera différent, mais aujourd'hui, ce que tu disais, c'est le signe de crispation, parce que les gens disent qu'ils sont moins égaux que d'autres. C'est ça le problème fondamental. C'est que qu'on soit musulman, chrétien, juif, agnostique, athée, tout ce qu'on veut, on a les mêmes droits et on accède aux mêmes droits et on est reconnu dans ces droits, vous verrez que les religions, ça sera... Voilà.
Et la question, c'est comment on va effectivement combattre ce phénomène ? Parce qu'on a toujours en tête la crainte que ces femmes soient manipulées. On la partage tous, cette inquiétude, cette indignité, et peut-être l'expansion de ce phénomène aussi. Hein ? Bon, comment on va combattre ça ? Moi, je pense que c'est pas avec des règlements où on interdit à des gens qui portent un foulard de rentrer dans un lieu. Moi, je le pense et je le redis. Deuxièmement, je pense qu'il faut parler, il faut qu'on échange entre nous. Si vous voulez, si on veut faire société, comme on dit, dialoguons. Et puis ensuite, je pense que comment on va avancer, c'est en faisant de l'histoire. Que ce soit avec le caractère historique de l'intervention qu'on a eue tout à l'heure, où on fait la genèse de la laïcité. Parce que les musulmans ne connaissent pas l'islam, mais je pense que les Français ne connaissent pas non plus la laïcité. Hein. Et donc, de faire de l'histoire, c'est utile. Et de l'histoire du fait religieux, ça, c'est aussi utile. Il faut que, tranquillement, entre nous, on fasse l'histoire des religions, l'histoire de l'islam. Et effectivement, moi, j'ai eu écho que l'écrasante majorité des musulmans ne connaissent rien de l'islam. Parce que l'islam, c'est aussi, je veux dire, une religion qui a été prestigieuse à un moment donné de l'histoire de l'humanité, de ce côté-ci de la planète, enfin. Ça a été la religion de la modernité... Eh bien, il faut en faire davantage, de mon point de vue. Et c'est très utile.
Dire, c'est que je ne souhaiterais pas qu'on se méprenne sur mon propos un peu long sur l'islam des mosquées et l'islam des mausolées. C'est bien clair, comme l'a dit Mohamed, qu'il est évident que dans la laïcité, chacun peut pratiquer la religion qu'il veut. C'est simplement voulu pointer le paradoxe qui consiste à croire qu'une forme d'islam, ça soit l'islam tout court. Et que moi, je connais des tas de Kabyles, et même j'ai des amis, qui sont vraiment sidérés de voir qu'on leur impose ça, et leurs parents qui vivent ici sont sidérés qu'on leur impose la mosquée alors qu'ils y sont jamais allés quand ils étaient au bled. C'est ça simplement que je veux dire. Que pour eux, c'est pas une pratique et qu'on leur impose. Donc, il y a des musulmans pour qui ça fonctionne pas, cette histoire-là. C'est ça que je voulais dire, tout simplement.
Je m'appelle Bérénice. Et puis, je fais partie des femmes solidaires. Et moi, je trouve quand même qu'à l'école, il n'y a pas question de faire des différences. Et qu'à l'école, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les autres élèves. Parce qu'à un certain moment, moi aussi, je faisais partie des gens qui croyaient que le voile, ce n'était pas grave. Et qu'il valait mieux qu'on allait à l'école avec un voile que de ne pas aller à l'école. Mais finalement, on a discuté à un certain moment avec une femme algérienne qui nous a expliqué comment petit à petit les choses ont changé en Algérie. Comment que petit à petit ce voile est devenu un symbole, non pas chez les femmes laïques, mais chez les femmes islamistes et qui, eux, ont imposé aux autres femmes leur façon de vivre. Et moi, ça m'a convaincue. Et moi, je regrette parce qu'il y a eu le même phénomène en Pologne. En Pologne, à un certain moment, on avait le droit à l'IVG, on avait un tas de droits et tout à coup, avec les deux jumeaux qui étaient intégristes catholiques, il n'y avait plus aucun droit pour les femmes. Hein. Alors moi, je dis qu'il faut être très, très, très vigilant et c'est les mêmes devoirs et c'est les mêmes obligations. Obligations aussi. Je regrette.
Alors, bon, moi, je vais donc là peut-être conclure sur... Peut-être, je ne sais pas si ça fait synthèse, ou je voudrais dire simplement que là, la discussion a bien montré que tolérer, ça ne veut pas dire ne pas discuter, ça ne veut pas dire repousser. Ne pas tolérer, ça ne veut pas dire ne pas tolérer les gens. Ça veut dire simplement ne pas tolérer n'importe quelle idée. Et je crois que là, on est en permanence sur ce débat qui me paraît toujours... glissant, parce que ne pas tolérer un certain nombre d'idées qui ne sont pas tolérables, ça ne veut jamais dire repousser les gens. Et je crois que là, typiquement, on est confronté à ce problème-là. On se fait accuser de jeter des gens, alors que ne pas tolérer des idées, ça n'empêche jamais le respect des personnes, ça n'empêche jamais de discuter, ça n'empêche pas de jouer cette carte du mouvement d'éducation populaire et de pouvoir discuter. Donc, je crois que là, moi, ça me paraît toujours extrêmement dangereux qu'on fasse cet amalgame-là. Pour dire quand même, là, on parlait du port du foulard, moi, je pense qu'il faut aussi être vigilant sur... Parce que l'idée de être obligé ou ne pas être obligé de le porter, je vais prendre un... Je transfère à d'autres choses. Est-ce que des jeunes dans un lycée sont obligés de porter des vêtements de marque ? Est-ce qu'ils sont obligés de porter des chaussures, des baskets de telle marque ? Non, personne ne les oblige. Et pourtant, on sait très bien ce que ça veut dire et on sait très bien vers quoi ça va. C'est-à-dire qu'il y a un effet de mode qui entraîne des jeunes, pour faire comme les voisins, à subir des choses qui ne sont pas acceptables. Parce qu'on sait très bien, je transfère donc, mais sur cet effet de mode, porter un vêtement de telle marque, pour bien montrer aux voisins que... à son copain ou autre, que au moins on a ça, on a mieux que lui, ou on a comme lui, ou j'en sais rien. Donc je crois que cet effet-là, il ne faut pas l'oublier, et il faut être extrêmement vigilant. Donc quand on dit à un gamin qu'il porte, que c'est extrêmement dangereux, qu'il joue cette carte-là, de mettre des vêtements de telle ou telle marque, qu'on l'oblige à ouvrir les yeux sur ce que veut dire des marques, avec tout ce qu'on peut connaître pour un certain nombre de marques, de faire travailler des enfants, etc. Ça ne veut pas dire pour autant de rejeter le gamin. Donc je crois que là-dessus, il faut qu'on soit au clair sur la différence entre le respect des personnes et l'intolérance par rapport à ce qui n'est pas tolérable. Enfin, moi, je crois que c'est simplement ça. Et je n'ai pas envie de me faire prendre au piège en permanence sur cette idée que je n'accepterai pas les gens. Ce n'est pas la même chose et on ne mélange pas. Alors, juste bon, pour terminer par rapport à ça, je pense là que, on a, nous, découvert une nouvelle notion de laïcité. C'est la laïcité cachée, c'est-à-dire on peut parler de la laïcité, mais attention, sous la table, bien cachée chez soi. Bon, donc ça, c'est aussi une notion qui, là, commence à devenir dangereuse. Pour contrer cette notion de laïcité cachée, je pense que là, il faut qu'entre laïcs convaincus, parce que les choses sont difficiles, et je crois que le militantisme sur ce terrain-là sera très dur dans les années qui viennent. Je pense qu'il faut qu'on établisse des réseaux, qu'on se regroupe entre associations convaincues, entre personnes convaincues, et que surtout on essaye, enfin qu'on n'essaye pas, c'est-à-dire bon, chacun de son côté, on se bat comme on peut, mais je pense qu'on a vraiment intérêt à se lier, à se solidariser et à construire un réseau solide de défense de la laïcité. Donc là, je pense que ce soir, moi j'ai énormément apprécié les interventions de trois représentants d'associations qui sont sur des terrains différents, mais complémentaires et très fortement sur une défense de la laïcité solide. Donc, que ce soit l'association donc Femmes Solidaires, l'UFAL et l'association des Tunisiens en France, donc représentée par Pierre, par Mohamed et puis par Natacha, en partenariat donc avec la FAL. Donc, je pense que cette stratégie de construire un réseau laïque large sur Roubaix, mais aussi sur les villes voisines, ça me paraît extrêmement important pour essayer de préparer une défense, parce que pour l'instant, je pense que là, on entre en phase de résistance très très forte par rapport à la laïcité.
Ce débat se poursuivra dès 23h40 sur Boomerang, sur le 89.7, avec M. Pierre Baraka, président de l'UFAL de Lille.